Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire de ce journal. Les épreuves écrites du baccalauréat malien ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire avec plus de 212 000 candidats. Cette année, les parents d'élèves se réjouissent de la rigueur dans la surveillance des examens. Le problème des sangs est toujours récurrent au Centre national de transfusion sanguine. À l'occasion de la journée du don de sang volontaire, le CNTS invite la population à renverser la tendance des moins de 30% des donneurs de sang bénévoles. Sport football, le Mali a validé hier son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Des chroniqueurs sportifs exhortent les Aigles à travailler sur leur offensive. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté, Philippe Dambélé est à la technique. Les épreuves écrites du baccalauréat malien session de juin 2023 ont débuté ce lundi 19 juin. Plus de 212 000 candidats prennent part à cet examen dans 480 centres sur toute l'étendue du territoire national. Le coup d'envoi a été donné par le premier ministre Choguel Kokala Maïga au lycée privé Marif. Notre reporter Moussa Malé Sissoko a sillonné quelques centres.
Au lycée El Madani Dravé de Lafiabougou, cette première journée du baccalauréat s'est bien déroulée selon les responsables de ce centre. Ici, les élèves de la série TSCO, Terminal Sciences Économiques, ont débuté avec l'épreuve d'économie. Au sortir de la salle, certains candidats ont trouvé le sujet abordable. C'est le même constat au lycée Notre-Dame du Niger, où les élèves de la série Terminal Sciences Sociales TSS composent. Ils sont 658 candidats partagés entre 22 salles dans ce centre. L'épreuve de philosophie a été la première abordée, cela sans incident. En revanche, au lycée Castor 1 de Badalabougou, les responsables du centre ont déploré l'arrivée tardive des listes additives des candidats. Une situation qui a été gérée à temps, selon eux. Ce centre accueille 535 candidats de la série Terminal Sciences Expérimentale. Il faut noter qu'un important dispositif sécuritaire est déployé pour le bon déroulement de l'examen. À l'entrée, chaque candidat est soumis à des fouilles corporelles. Les sacs et les autres documents sont interdits en salle, y compris pour les surveillants.
Les parents d'élèves félicitent les autorités en charge de l'éducation pour la rigueur dans la surveillance des examens. Ils les invitent à continuer dans la même lancée afin que les diplômes soient plus valorisés au Mali. Daouda Sako, membre de la Fédération des parents d'élèves au Mali, est joint par Moussa Malé Sissoko.
Nous sommes très confiants depuis le DF jusqu'au CAP et BT. En tout cas, nous sommes de plus en plus rassurés et nos examens gagnent de plus en plus de crédibilité. La police de surveillance, le règlement des examens sont stricts sur certains comportements. Et là, nous sommes vraiment en communion avec le cabinet du ministre de l'Éducation nationale pour que les examens se fassent dans les meilleures conditions. Vous avez vu, depuis l'année dernière, il y a moins de fautes, moins de faux sujets, il y a moins de fuites. Et cette année, nous souhaitons aussi que vraiment, les résultats sont nettement meilleurs, parce que c'est ce que nous voulons. Quand les examens sont mauvais, alors l'enfant n'y gagne rien, alors le parent d'élève ne gagne rien, et l'État aussi est le plus perdant.
18h passées de 3 minutes, vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La mission d'observation des élections Modèle Mali et la coalition pour l'observation citoyenne au Mali, COSEM, se disent globalement satisfaits du déroulement du référendum. Les deux organisations avaient chacune déployé un nombre important d'observateurs sur le terrain. Elles ont tout de même relevé des incidents et fait des recommandations. Mamadou Samaseko.
Selon la COSEM, 91% des bureaux ont fermé entre 17h45 et 18h. Pour la Modèle Mali, 96% des bureaux ont fermé à 18h. 17% des bureaux de vote observés n'étaient accessibles aux personnes vivant avec handicap, selon la COSEM. Les deux organisations ont toutes fait cas de la non-tenue du scrutin dans la région de Kidal. Elles ont aussi cité les cas de dysfonctionnement, notamment dans les régions de Mopti, Kaï et Tombouctou et dans le district de Bamako. Ajouté à cela, d'agents électoraux et de matériel électoral. Dans sa déclaration préliminaire, la COSEM a recommandé aux autorités de s'atteler à la finalisation de la centralisation des résultats et leur publication dans les délais légaux. Elle exhorte les différents acteurs à s'abstenir de toute proclamation du résultat des votes avant le résultat officiel. Aussi, la COSEM les invite à recourir aux voies légales pour toute contestation ou réclamation. La Modèle Mali, qui estime à 27% le taux de participation, a fait savoir qu'elle fera sa déclaration préliminaire ce lundi après-midi 19 juin 2023.
Autre sujet, le gouvernement du Mali a demandé vendredi dernier devant le Conseil de sécurité le retrait sans délai de la MINUSMA. Selon les autorités maliennes, la force onusienne a échoué au Mali. Mais cette demande suffit-elle pour retirer la mission de l'ONU du pays? Comment va se dérouler ce départ de la MINUSMA s'il était accepté? Élément de réponse dans ce reportage de Diara Faskoy.
La volonté seule du Mali ne suffit pas pour faire partir la MINUSMA, affirme Paul Oula, expert en sécurité. Selon lui, le dernier mot revient aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité.
Au niveau du Conseil de sécurité, nous avons 15 membres, dont 5 permanents et 10 membres non permanents. Donc même si le Mali dit aujourd'hui qu'il n'est pas prêt à accepter la présence de la MINUSMA au Mali, il va falloir qu'on fasse le vote. Et le vote est prévu pour le 29 de ce mois. Au cours de ce vote, si un des États membres vote contre, alors la MINUSMA est priée de plier ses bagages. À le cas échéant, les 5 votes, oui. Alors, l'administration restera au Mali.
Même s'il est trop tôt d'en parler, l'enseignant-chercheur Jean-François Camara pense que ce retrait ne sera pas sans conséquences.
Aujourd'hui, c'est très tôt de parler de savoir si tu as les vraies conséquences. Je pense bien que ça va être difficile encore pour l'État du Mali de s'organiser du point de vue sécuritaire. Il y a les risques d'isolement qui peuvent se poser par rapport à ce retrait.
Selon les analystes, si la demande du Mali passait au Conseil de sécurité, le retrait de la mission pourrait prendre 6 à 12 mois.
Je vous l'annonçais dans les titres, les responsables du Centre national de transfusion sanguine déplorent qu'au Mali, moins de 30% des donneurs de sang sont des bénévoles. C'est dans ce contexte que la journée internationale dédiée aux donneurs volontaires a été célébrée le 14 juin dernier. À cette occasion, la direction du centre a invité la population à plus de dons de sang. Des précisions avec Dramane Maïga.
Au Centre national de transfusion sanguine, nous avons croisé M. Pierre Conné, un donneur bénévole de sang. Il indique que c'est un plaisir pour lui de donner au moins 4 fois son sang chaque année depuis plus de 40 ans.
Ce qui me motive, le fait de sauver mon prochain. Ça, c'est un acte de solidarité, un acte d'amour. Donc, les jeunes, vraiment, donner du sang pour sauver des vies humaines.
Des personnes saluées par les responsables du centre. Cependant, il regrette le nombre de donneurs volontaires en baisse. Dr Baba Fané, directeur adjoint du Centre national de la transfusion sanguine.
Cette notion de don volontaire non rémunéré est très importante dans la sécurité transfusionnelle. C'est un apport précieux, c'est un apport capital, c'est un apport indispensable. Alors, pendant longtemps, le Mali a oscillé autour des 30% de dons, mais après, souvent, ces chiffres fléchissent encore, on est à moins de 30%.
Les responsables du centre lancent aussi un appel aux partenaires pour faire face à certaines difficultés techniques et financières qu'ils rencontrent souvent la structure.
Sport football, le Mali a validé son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles se sont imposés hier devant les Diables Rouges du Congo 2-0 à Brazzaville. Pour des observateurs sportifs, cette qualification a été bien méritée. Cependant, le chroniqueur sportif Adama Maïga estime que l'équipe doit encore travailler sur la partie offensive. Il est joint par Juliette Koulibaly.
Que vraiment la qualification des Aigles est amplement méritée. Donc c'était le 5e match des Aigles et déjà sur 5 matchs, donc les Aigles avaient gagné 4, ce qui leur permettait de se qualifier pour la phase finale en Côte d'Ivoire. Je pense que les Aigles avaient les faveurs des pronostics avant le début de ces éliminatoires et vraiment ils ont comblé à l'attente du public sportif malien en offrant à notre pays la qualification. L'équipe doit quand même travailler dans certains compartiments, comme je l'ai dit, notamment sur le plan offensif. C'est vrai que pendant ces éliminatoires, nous avons marqué quand même 10 buts en 5 matchs. Bon, on peut dire que c'est extraordinaire, mais il faut le relativiser parce que ce compte est des adversaires encore plus faibles. Alors qu'à la phase finale, nous allons avoir des meilleurs.
À présent, notre rubrique Zoom sur les sorties nocturnes font partie du quotidien de certains jeunes. Le plus souvent, c'est sans l'avis des parents. Mais pour y parvenir, chacun a sa stratégie. Adama Aïdara nous en dit plus.
Bien s'assurer que papa et maman dorment avant de sortir la nuit, faire tous les travaux ménagers la journée pour convaincre les parents de nous laisser sortir ou encore accepter les caprices des petits frères sans bouder. Des stratégies bien connues par nos amis jeunes noctambules. Mais là, c'est pour ceux qui veulent passer par la voie officielle. Sada a sa stratégie, une journée tranquille et faire semblant de ne pas avoir de programme. Dès que la nuit tombe, elle passe aux préparatifs. Elle est la première à aller au lit. Une fois que toute la famille se couche, c'est à peine on entend ses pas. Sada se dirige vers la fenêtre ou grimpe le mur pour aller faire le show. Cependant, on oublie très souvent que ceux qu'on essaie de tromper sont souvent passés par là et ont aussi vécu cette jeunesse. Ce qui explique évidemment les surprises au moment du retour.
Chronique signée Adama Amadou Aïdara. Insécurité quand le commerce illicite d'armes inquiète, c'est le thème du débat de ce soir qui sera présenté par Mariam Maïga. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition sur la plateforme Viamo en appelant au 37 321. Vous pouvez aussi la retrouver ainsi que toutes les productions de Studio Tamani sur l'application Studio Tamani disponible sur Play Store. Restez à notre écoute tout de suite. Le magazine. Des contenants vides de pesticides sont utilisés pour conserver de l'eau, du miel, du lait en milieu rural. Et malgré la sensibilisation, la pratique continue. Les utilisateurs expliquent qu'ils ne savent pas souvent comment s'en débarrasser. Pourtant, des spécialistes soutiennent que ces emballages vides gardent leur toxicité même après plusieurs rinçages. Lors du dernier Conseil supérieur de l'agriculture, les autorités ont annoncé la disponibilité de plusieurs milliers de litres de pesticides. Comment se fait la gestion des anciens emballages de pesticides? Élément de réponse dans ce magazine, parlons de l'environnement réalisé par Mariam Koulibaly à Koutchala.
Ces contenants se présentent sous forme métallique, des sachets ou boîtes plastiques. À Koutiala, la CMDT distribue par an plus de 10 000 litres de pesticides aux producteurs et c'est sans compter la quantité vendue sur les marchés. Faute de moyens, tout projet mis en place pour sécuriser ces emballages sont à l'arrêt dans la capitale du coton. Amadou Keita, chef service de l'assainissement du contrôle des pollutions et des nuisances à Koutiala.
Du village, on l'a déjà appelé le triple rinçage de ces emballages vides pour qu'il y ait une atténuation de l'effet. Il y a une trouaison qui est faite sur l'emballage, on nous amène ça. C'est sécurisé dans les conteneurs, donc au fin d'être transporté pour aller les détruire dans d'autres pays qui ont une spécialité et qui sont experts aussi dans le domaine. La commune de Zevala, comme la commune de Wintina, la commune de Sinsina, la commune de Yungo, la commune de Bessoba, de Moulouyanasso, on a mis des conteneurs vraiment pour leur demander vraiment de nous amener ces emballages vides pour qu'on puisse les sécurisé. Vraiment, subitement, il y a eu question de financement, donc ça a un peu traîné. Mais maintenant, pour les enlever des villages ou bien des zones de culture pour les conteneurs, donc il y a eu des problèmes à ce niveau.
Les réutiliser ou les mettre sous terre sont les seuls moyens que les agriculteurs ont trouvé pour s'en débarrasser. Certains connaissent les risques liés aux anciens récipients de pesticides à Koutiala.
Après l'utilisation de pesticides, le matériel doit rester au champ. Les produits consommables ne doivent pas être utilisés avec ces matériaux. Le matériel doit être détruit après utilisation.
À mon avis, ils doivent arrêter, car c'est mauvais pour la santé.
En réutilisant ces emballages vides de pesticides, les populations s'exposent à des maladies telles que le cancer, la diarrhée, les problèmes cutanés, etc. Youssouf Djam Sidibé, médecin chef du CCRF de Koutiala, le confirme.
À court terme, ça entraîne des effets mineurs, notamment les allergies, les diarrhées. Mais au fur et à mesure que tu es exposé, j'avoue que ça vous donne des maladies cancéreuses. Ça entraîne des agressions. En tout cas, de l'organe qui est en contact, ça peut être la peau, ça peut être les poumons, ça peut être les yeux, ainsi de suite. Donc ça entraîne toutes sortes de maladies, en tout cas de façon prolongée.
À Ségou également, la pratique existe, mais beaucoup réalisent déjà les dangers.
À cause de la pauvreté dans notre pays, particulièrement ici à Ségou, les gens les réutilisent. Nous, on a en tête que les trucs industriels, là, toujours ça peut nous servir quelque chose. Donc les gens les prennent et essaie de les réutiliser sans pourtant remplir toutes les conditions d'hygiène.
Là où nous avons acheté ces produits, après utilisation, on les remet aux vendeurs. Quand on les jette, ça peut constituer un véritable danger pour les enfants.
En marge de la quinzaine de l'environnement lancée le 5 juin dernier à Koutiala, beaucoup d'activités de sensibilisation sont en cours. Amadou Keita, chef service de l'assainissement du contrôle des pollutions et des nuisances à Koutiala.
On ne peut pas connaître la dangerosité de quelque chose et encore continuer à le faire. Et aujourd'hui, quand même, on peut dire qu'il y a une réduction timide de la chose parce que jusqu'à présent, les enfants utilisent ça. Donc, on va continuer quand même à cultiver du coton. Mais nous aussi, y compris la CMDT, qui est notre partenaire, je ne dirais pas assez, on continue ensemble dans le cadre de la sensibilisation.
D'après les environnementalistes, même après plusieurs rinçages, les emballages de pesticides ou d'engrais restent toxiques pour la santé, d'où la nécessité de trouver une solution durable.